Et si j'essaie de le résumer, je crois de bien que ce n'est pas une... Là aussi, c'est pas... C'est une question que je pose, je n'y vois rien d'autre que... C'est comme ça, parce que c'est comme ça. Pourquoi est-ce que l'être vivant, pourquoi est-ce que la vie n'avait pas besoin de recomposer son être ou de rassembler son être par un décrochage? Pourquoi est-ce que le travail n'avait pas besoin de rassembler son être par un décrochage, exactement comme le langage avait besoin de rassembler son être par un décrochage de la littérature avec la linguistique? À l'issue de cette première raison, je vois qu'on me dit, en fait, c'est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi. La deuxième raison, et page 306-307. Et là, elle ne vaut plus dans la perspective d'un parallèle général. Langage d'une part, d'autre part, vie et travail, elle vaut plus étroitement, cette seconde raison donnée page 306-307, elle vaut plus directement, uniquement pour, et dans le cadre d'un parallèle, langage vie. Et l'argument de Foucault, là, est exactement celui-ci. Je le résume, vous verrez, c'est page 306-307. Lorsque la vie au XIXe siècle est devenu historique, c'est-à-dire a acquis une historicité, ça n'a été que secondairement. La preuve s'en est puisée. Ça n'a été que secondaire. En quel sens? Ce n'est pas la composition des vivants, même diverses, qui a imposé une historicité de la vie, ce qui a imposé une histoire de la vie. C'est les rapports du vivant avec le milieu. Et c'est tout le thème chez Cuvier, par exemple, des conditions d'existence. Donc, la biologie du 19e siècle découvre les compositions du vivant. Mais ce n'est pas encore les compositions internes du vivant qui imposent une historicité de la vie. Ce qui impose une historicité de la vie, c'est la considération que les organismes composés sont dans des milieux. C'est donc par l'intermédiaire du milieu que la vie reçoit une historicité. Et c'est vrai de Darwin, c'est vrai de Darwin de toute évidence, mais c'est déjà vrai de Lamarck. La part d'historicité que Lamarck reconnaît au vivant tient à ce qu'il appelle les conditions et ce qu'il découvre, il est le premier à faire une grande théorie des conditions d'existence, ce qui est différent d'une simple théorie de l'action du milieu sur le vivant. Et c'est à ce niveau qu'apparaît l'historicité de la vie. Tandis que nous disons Foucault, dans le cas du langage, c'est directement et immédiatement que le langage est saisi dans un mouvement d'historicité. En d'autres termes, la philologie du XIXe siècle découvre immédiatement le langage comme diachronique. au point que pour découvrir le langage comme synchronique, il ajoute dans la page 307, au point que pour découvrir, il faudra attendre Saussure, qui bizarrement est forcé pour ça de restaurer quelque chose de l'âge classique et de la conception classique du langage. Mais le langage est d'abord découvert comme force historique, sans passer par la secondarité d'un milieu. Là, je dis, ça me paraît plus une raison, mais là aussi, j'avoue, et encore une fois, ce n'est pas dans mon esprit une objection, je ne vois pas. Je ne vois pas pourquoi. Auxquels les philologues du 19e siècle rattachent le langage. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il établit à ce niveau, pourquoi il nous dit la vie pour devenir historique a besoin du milieu, tandis que le langage n'en a pas besoin. Or, et je ne vois aucune autre raison dans les mots et les choses pour asseoir ce privilège du langage ou, comme il dit, ce destin saillant. Nous nous trouvons donc là, et je veux dire, c'est pas, faut pas en faire un, parce que c'est pas grave. De toute manière, les deux hypothèses vont se démontrer. Je dis juste au point où nous en sommes que nous pouvons considérer à ce stade de notre problème, une hypothèse étroite qui correspond à la lettre de Foucault. Et nous pouvons considérer une hypothèse élargie, une hypothèse généralisée, qui quitte un instant la lettre de Foucault dans le seul but peut-être de rendre plus clair la conclusion même qui sera commune et qui est la même pour les deux hypothèses, à savoir l'avènement d'une troisième forme qui n'est plus ni Dieu ni l'homme. Que cet avènement, je dis, ce sera la même conclusion, que cet avènement d'une troisième forme qui n'est plus ni Dieu ni homme ne dépend que du facteur rassemblement d'un être du langage, hypothèse restreinte, ou dépend, hypothèse élargie, du rassemblement des trois aspects, être du langage, être de la vie, être du travail. Chacun des trois mis dans son rapport avec son dehors. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire un drame. Pas compliqué. Donc, moi, ce qui me reste, je vous dis au point où j'en suis, moi, ce que je voudrais choisir pour retrouver très vite la lettre de Foucault, le texte littéral de Foucault, ce que je voudrais choisir, c'est l'hypothèse élargie. Et encore une fois, pour une raison que je récapitule, si l'on nous dit que quelque chose d'aussi important qu'une forme de pensée nouvelle qui ne serait plus ni Dieu ni l'homme ne dépend que de la littérature, quelque chose me paraît manquer à commencer par le rapport de la littérature avec la vie et avec le travail. Car la littérature est elle-même et a une partie indissolublement liée avec la vie tout court et avec le travail tout court. En revanche, Comtesse, la dernière fois, me disait que, comprenez bien où nous en sommes, c'est sur ce point très précis. Comtesse me disait, à la fin de la dernière séance, eh bien moi je vois pourquoi Foucault donne ce privilège ou ce destin singulier au langage. Et il ajoutait même, si j'ai bien compris sa pensée, je comprends même pourquoi il est forcé de le faire. Voilà. Donc, au point où nous en sommes, là, je voudrais
donner la parole à la comtesse, s'il veut bien, et qu'il dise là comment lui fait sa lecture de ces textes, de ce problème universel. Tu veux bien? Et puis après, on va voir ce qu'il en sort. Moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pas dit, ce qu'il avait dit.
Historique, l'espace de langage n'est ni
un fondement de vérité, ni un sol de savoir, mais une fondation, un socle, un sous-sol, une nappe archéologique antérieure à toute différence ou opposition entre théorie et pratique. Si on veut opposer la pratique à la spéculation pure, l'une et l'autre, de toute façon, représentent un seul et même savoir fondamental. Dans une culture, et à un moment donné, il n'y a jamais qu'une seule épistémie qui définit les conditions de possibilité de tout savoir, que celui-ci se manifeste en une théorie ou celui qui est silencieusement investi dans une pratique. L'espace de langage n'est pas la pensée de l'être, c'est-à-dire la pensée d'une vérité, d'une forme fondatrice ou d'une figure constituante. Il déconstruit, presque comme à l'avance, la primauté ou la priorité d'une épistémologie. Il n'est pas la pensée, mais seulement un événement de pensée du langage qui se répète formellement, qui se reproduit toujours. Le rapport du signe, du sens et une loi du langage qui assure justement ce rapport du signe et du sens qui le rend comme une loi constante. Toujours, autrement dit, toujours dans toute culture, dans tout âge, dans toute formation, toujours un sens des signes pour une loi du langage. Toujours un jeu des signes mesuré par le sens ou gardé par la loi. Les signes peuvent se conjoindre au monde comme surface sexuelle. Ils peuvent se disjoindre ou se retirer du monde pour se conjoindre à la scène représentative de l'ordre de l'entraînement des raisons ou des idées. Ils peuvent échapper à la représentation pour désigner son dehors irréductible, exprimer une profondeur cynique qui les déborde. De toute façon, la conjonction sémantique des signes se répète toujours par la loi du langage. C'est seulement la conjonction sémantique qui change de forme, mais elle ne cesse elle-même de se répéter dans la série disjonctive des événements de pensée du langage. Ce qui varie d'un espace de langage à l'autre, c'est seulement la fonction du signe, la place du sens, le statut de la loi, la forme de la conjonction et peut-être la figure de la disjonction. Tout, connaissant un sens sexuel des signes séculaires, naturels, donnés, opaques, selon la loi de la ressemblance, et qui fait que parler n'est pas voir, mais s'efforcer de lire le texte chiffré symbolique du monde, tenter de marquer la ressemblance avec le texte sacré du livre, c'est-à-dire de la différence sacrée du sens de l'un comme du pauvre. Deuxièmement, à statut, un sens interne au signe, représentatif, arbitraire, neutre, transparent, selon la loi de l'ordre ou de la différence exclusive, et qui fait que justement parler n'est pas voir, mais regarder à distance selon l'optique réflexive, du pouvoir de se représenter, de juger, de mettre en série, de classer, de former un tableau représentatif des piliers. Troisièmement, âge moderne, un sens non plus intérieur, mais un sens extérieur ou un dehors fini profond, extérieur à la représentation, dehors du dedans, plein, transparent. Sens profond, justement, des signes maintenant désignatifs, expressifs, selon la loi du temps, de la différence inclusive, comme loi de la signification représentative. Le temps du propos est, pour le langage, son mode intérieur d'analyse, ce n'est pas son lieu de naissance. Et ce qui fait que parler n'est pas voir, mais élaborer les significations représentatives, exprimer des organisations complexes, jusqu'à découvrir des systèmes structuraux comme dehors même de ces significations. Les espaces de langage, comment dire, ne s'induisent ni ne se déduisent les uns des autres, ne sont pas à décrire comme une sédimentation naturelle de couches géologiques, ne fixent même pas une géologie des savoirs, car chaque espace est un socle fragile, une fondation intenable, un sous-sol mouvant, espace voué à sombrer ou à s'effondrer. La série différentielle des espaces de langage est une série de crises, de ruptures, de coupures étranges, de discontinuités énigmatiques, d'événements qui surgissent et qui disparaissent d'un coup, sans aucune évolution naturelle, sans aucun passage historique réglé, sans aucun devenir dialectique. Le paradoxe de la discontinuité, l'aporie de la mutation brusque, ouvre seulement à l'énigme du rapport de l'événement de pensée du langage, c'est-à-dire de l'épistémé, avec ce que Foucault nomme l'érosion du dehors. En effet, aucun espace de langage ne peut rendre compte de soi par soi, ne peut rendre raison de soi-même, ne peut s'inscrire dans un principe de raison. C'est, en effet, par un dehors inouï qu'un espace de langage surgit et disparaît, exposé à l'érosion du dehors, à la pression souterraine qui le lézarde, le fissure, le fracture, produit sa cassure ou son effondrement. Chaque espace de langage, chaque événement de pensée du langage, chaque socle épistémique s'ouvre et se referme du dehors, ouvre et referme le dehors, le langage autre du dehors. L'ouverture et la fermeture du dehors, de l'espace du dehors, et le jeu secret du surgissement et de la disparition de chaque espace de jeu de la machinerie culturelle d'une époque ou d'un âge. Ce qui se répète est la disjonction de la série des événements de pensée du langage et de l'espace du dehors. Aucun événement de pensée du langage, aucun savoir comme défi ou repli de l'événement, aucune vérité fondatrice ne parviennent à penser ou à effectuer le dehors, l'espace du dehors, le langage du dehors, le dehors du langage. Le désir, dit Foucault, tantôt et ce qui demeure toujours impensé au cœur de la pensée. Ce que la littérature cherche à rassembler dans son mouvement de remontée à l'être brut du langage, ce n'est donc ni la langue, ni l'organisation du langage, ni même les espaces épistémiques de langage, mais justement le langage du dehors comme dehors du langage. Et l'espace du dehors a rapport aussi, non seulement à la littérature, mais à l'événement généalogique de l'histoire de la folie. L'événement de cet espace du dehors qui défait presque à l'avance la conjonction immémoriale des signes et du sens selon une loi épistémique de langage. Événement au début de l'histoire de la folie dans le haut Moyen-Âge, à la fin du XVe siècle. Événement d'un tourbillon abyssal de force, de signes déchaînés, d'affects d'intensité violente. Événement d'une démence pure, insoutenable, insupportable, et qui s'annulera dans l'histoire de la folie, l'histoire de la réserve infinie, du savoir incommensurable, fermé de l'événement généalogique même, l'histoire de la folie, l'histoire de la différence, spéculaire avec le fou, de la différence exclusive avec l'insensé, de la différence inclusive avec le malade mental. Car au XVe siècle, dans le haut Moyen-Âge, se produit justement cet événement généalogique de l'histoire de la folie comme événement toujours recouvert par la série des binarités qui constitue l'histoire. C'est une poussée irrésistible, une puissance incoercible qui monte, qui éclate dans un gigantesque délire qui envahit tout, une irruption violente de folie avec ses figures hallucinatoires intenses et terrifiantes, selon, comme le montre Foucault, une triple tension. Premièrement, dans la folie irruptive, dans l'événement de l'espace du dehors, dans l'explosion ou l'éclatement de la violence, de la folie, la bête domptée, domestiquée, dressée, socialisée, revient, resurgit, s'impose et s'empare de l'homme. Foucault écrit, la bête se libère pour acquérir un fantastique qui lui est propre. La folie, c'est déjà se devenir bête de l'homme, devenir qui essaime, qui se multiplie, qui se disperse dans une multiplicité que Foucault appelle multiplicité d'animaux délirants, qui spécifie cette multiplicité, l'éclatement de la puissance libérée de toute différence sacrée. De devenir bête et devenir animaux délirants, ça efface les grands noms, et pas simplement les formes fondatrices, les grands noms de Dieu ou de l'homme, d'un effacement qui deviendra insupportable et qui sera réapproprié justement dans les formes fondatrices de Dieu ou de l'homme, comme forme fondatrice, supposée fondatrice des savoirs. Mais lorsque l'homme comme nom s'efface dans les devenirs, les animaux, dit Foucault, sont devenus la secrète nature de l'homme. Deuxième point, l'irruption de la bête, la folie animale qui éclate, ça coïncide avec l'explosion thermodynamique de la Terre, avec la déflagration de la nature, notre futur, avec la dislocation de la fuite de puissance de la nature. La Terre prend feu, vomit ses morts, les étoiles s'éteignent et tombent dans une catastrophe cosmique inouïe. Toute vie du troupeau se défait et vient à la mort. La vie, comme mortification de la mort, meurt. Troisième point, l'anéantissement du monde, de la puissance cosmique qui se conjugue à l'explosion de la Terre ou à la dislocation de la nature, libère alors ce que Foucault nomme le délire de destruction pure. Ce délire est l'exaspération extrême du devenir bête ou l'intensification des devenirs animaux. C'est l'intensité violente ou sauvage qui ne cesse de monter. Et Foucault insiste sur la sombre rage ou l'universelle fureur des animaux délirants, la fureur dévastatrice des animaux avec leurs hurlements déments, leurs vociférations forcenées, leurs folles vengeances, leurs dévorations voluptueuses, leurs carnages rouges. Seulement, Foucault ne dit pas seulement que l'histoire de la folie, mais l'histoire du temps, de ses modes d'intégration, de différenciation, du temps comme sortie violente de l'événement multiple, multiplié de la puissance éruptive de folie, il ne parle pas simplement du temps comme effecteur de l'oubli, ni même de l'oubli de l'oubli. Il ne parle pas du temps ou de l'histoire de la folie comme espace simple d'un pouvoir de rejet, d'exclusion, de ségrégation, d'un pouvoir d'appropriation, de réappropriation de la folie, d'arraisonnement de la folie selon les figures de maîtrise ou de domination, ou selon les formes fondatrices de savoir. Il ne parle pas du temps comme d'un pouvoir d'où se préleverait un savoir, ou encore, il ne se contente pas de parler du jeu entre les stratégies et les archives, du jeu complexe de la culture dont les sociétés ont besoin pour survivre. Il n'annule pas l'événement généalogique de l'histoire de la folie. Seulement, il ne s'arrête pas non plus à cet événement. Il ne s'y inscrit pas. Il ne se contente pas de l'enregistrer ou l'accentuer, justement, l'éclatement du silence, l'explosion, la dislocation ou les affects du délire de destruction pure ou d'anéantissement du monde. Car l'événement généalogique de la folie qui appartient à l'espace du dehors, comme dehors des espaces de langage, cet événement-là n'est pas muet. Il se définit non pas par ce qui se passe, mais concerne au contraire ce qui se produit dans ce qui se passe, c'est-à-dire ce qui se reproduit ou ce qui se répète. Avant même, autrement dit, qu'un pouvoir s'exerce pour rejeter ou annuler l'événement, le réduire à ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer, avant même qu'un savoir se prélève ou s'extrait de ce pouvoir pour le fixer, le solidifier, le consolider, l'événement pour Foucault, cet événement de l'espace du dehors, répète lui-même, étrangement, un savoir ou un langage. Il est, en tant qu'événement, le recel d'un savoir enfoui ou le scellement d'un langage perdu. Les animaux délirants sont, dit Foucault, les éléments d'un savoir difficile, fermé, ésotérique. Dans ce savoir fermé, gardé, détenu par les fous, se profile, dit-il, ce que sera la cruauté de l'achèvement final. Le savoir fermé et étrange de l'événement généalogique de l'histoire de la police comme événement de l'espace du dehors, ce savoir étrange est celui de la puissance déchaînée de la police, de l'intensité violente du désir, et il annonce ce que Foucault appelle le dernier bonheur et le châtiment suprême. Il annonce la catastrophe, l'effondrement fulgurant, c'est l'avènement écrit Foucault d'une nuit où s'engloutit la vieille raison du monde. On ne veut rien savoir de ce que c'est le fou. On veut que le fou ne puisse venir à dire ce qu'il sait. Et c'est cela même qui nécessite le geste du pouvoir par l'exclusion, le rejet, la ségrégation du fou. On constitue le savoir fermé et étrange de l'événement de la police comme ce que Foucault appelle un savoir interdit, antérieur au pouvoir ou au savoir qui s'exprime au pouvoir. Le pouvoir, par rapport justement à l'espace du dehors et le langage de cet espace, le pouvoir, c'est d'abord le non-savoir radical du langage, c'est-à-dire la volonté d'ignorer le corps de la police.
C'est pas prêt. C'est pas prêt. Alors, je vais vous dire, ça me paraît évidemment une très remarquable intervention sur, et qui répond absolument à notre problème. Pour quelle raison Foucault donne-t-il au langage ce destin singulier par rapport à la vie et au travail? Alors là, je ne souhaite pas du tout moi, faire des objections à l'intervention de Comtesse, pas plus que Comtesse n'en a fait à la tendance vers laquelle j'allais. Vous avez des éléments, n'est pas exclu que certains d'entre vous aient encore d'autres éléments. Il n'y a pas de raison qu'on se réduise à deux hypothèses. L'avantage de la version de Comtesse, tout le monde y aura été sensible, c'est que elle respecte d'un bout à l'autre, ou elle se présente comme respectant la lettre de Foucault. Moi, je voudrais juste faire encore une fois là quelques remarques qui font que, malgré tout, j'ai bien écouté ce qu'a dit Comtesse. Je maintiens la possibilité d'une hypothèse large, mais pas pour vous l'imposer, puisque de toute manière, les deux hypothèses se retrouvent. Se retrouve au niveau, c'est comme une bifurcation. Si j'essaie de classer à ma manière, il l'a classé, je suis un peu l'ordre de ce qu'a dit Comtesse. Si j'essaie de dégager les points, je marque sur chaque point là où je bifurque avec ce qu'a dit Comtesse. Et encore une fois, ce n'est pas du tout pour prolonger une discussion, parce que je crois que ce qu'il a dit, c'était ce qu'il pouvait dire de mieux, et moi, ce que je dis, c'est ce que je peux dire de mieux, donc il n'y a pas... On fait chacun ce qu'on peut. À vous de choisir ou de trouver autre chose. Mais encore une fois, le monde est large et il y a mille autres choses à trouver. Je dis, le premier point de l'intervention de Comtesse a consisté à reprendre avec une rigueur et une honnêteté absolue et à accepter le problème tel que je venais de le poser. Donc, pas de problème. Il a dit, eh bien, partons de là, partons de ce problème-là. Pourquoi ce destin singulier du langage? Donc, pas de question. Deuxième point dans l'intervention de Comtesse. Il a tenu à signaler tout de suite que, lorsque Foucault invoquait la littérature, ce n'était pas étonnant que ce soit par décrochage avec la linguistique, puisque la littérature saisissait le langage sous une forme, ou forme est un mauvais mot, sous une puissance qui n'était pas de nature linguistique. Notamment, la littérature ne traitait pas du langage du point de vue de la désignation, ni de la signification, ni même, c'était compris, je crois, dans ce qu'a dit Comtesse, ni même du point de vue du signifiant. Mais, nous disait-il, il rappelait l'importance chez Foucault du terme « un être brut du langage ». Sur ce point, je suis entièrement d'accord, puisque même ce que je me proposais, c'était de définir cet être brut du langage, indépendamment de toute référence à désignation, signification, signifiant, et je pensais pour mon compte le trouver dans ces vecteurs qui tendent vers un dehors du langage. Donc sur ce point, je crois que mon accord avec Comtesse était complet, avec une nuance. C'est que je comprends très bien que la littérature moderne ne saisisse pas le langage au niveau des composantes linguistiques et ne le saisisse pas au niveau des significations. Mais lorsque je pose la question, et pourquoi n'y aurait-il pas un être brut de la vie? J'entends bien également qu'un tel être brut ne pourrait être découvert qu'en décrochage avec les organismes. Et que de même que le langage dans la littérature s'occupe, déborde la dimension de signification, l'être brut de la vie dont s'occuperait cette troisième figure, si elle existait, déborderait non moins l'organisation de la vie. De même pour le travail. Le troisième point, donc il me semble que ça, ce premier point, ne règle pas encore la question hypothèse étroite ou hypothèse large. Parce que pourquoi est-ce que la vie ne serait pas capable d'une opération semblable, dégageant un être brut, aussi bien que le langage dans la littérature. Troisième point fort de l'intervention de Comtesse, ça consiste à dire, et là ça va mettre en jeu les différences entre lui et moi, sûrement significative. Son troisième point, c'est « Mais ne croyez pas que le langage soit une force comme les autres. » Ou « Ne croyez pas que l'espace du langage soit un espace comme les autres. » Ouh, tout ça, ça revient un peu au même, au point où on en est. Ne croyez pas que ce soit une strate parmi les autres. Si donc il y a un destin du langage, c'est pas tant tactique. Il est, je reprends une expression de Comtesse, il n'est même pas justiciable d'une géologie. Ou alors c'est le socle des socles, c'est ce que vous voulez, mais c'est pas un socle. C'est réellement, nous dit-il, et c'est pas un savoir. Alors peut-être que la vie est un savoir, peut-être que le travail est un savoir-faire, un savoir-vivre, mais le langage, c'est pas un savoir, c'est pas un savoir-parler. C'est bien autre chose, nous dit Comtesse, et dans son expression la plus simple ou la moins lyrique, Comtesse nous dit, c'est une condition de c'est la condition de possibilité de tout savoir. Par la même, elle est. On peut même pas dire que c'est une couche socle. Bon, bien. C'est la condition de possibilité de tout savoir. D'accord. Moi là, je dirais. Mais oui, pourquoi pas. Je dirais sûrement qu'on fait sa raison. Mais voilà que ça décrise pas. Pour moi. Pour moi. Ça n'épuise pas parce que condition a beaucoup de sens. Et si je reprends, même si ça ne satisfait pas Comtesse, là, il pourra toujours corriger l'expression condition de possibilité en disant oui, mais possibilité était un mot vite dit. Je dis. Quel que soit le sens ou la précision que l'on donnera à le langage n'est pas un savoir,